fait des folies, j'ai pris des fous rires, ouais. Je croyais être heureux, mais y a tous ces soirs de Noël.
Radio de la paix, il est 7h. Le journal de 7h. Linda Christelle Ballier.
Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour cette première édition de ce mardi 9 janvier 2024 sur Radio de la Paix. En titre de ce 7h, au cours de la présentation de nouvel an du haut président de la République, le nonce apostolique, également doyen du corps diplomatique, Mauricio Reda a attiré l'attention du chef de l'État sur la corruption qu'il faut combattre dans le pays. C'était hier lundi au palais présidentiel. Et prévu initialement pour hier également lundi, le déguerpissement du quartier précaire Boribana de la commune d'Atécoubé a été suspendu dimanche soir, selon le secrétaire général du collectif des populations de cette localité que vous entendrez dans ce journal. Et puis en France, la première ministre Elisabeth Borne a remis sa démission au président Macron hier soir, qu'il a accepté et remercié sur le réseau social X. La une des journaux ivoiriens parus ce mardi sera l'affaire de Jean-Mélène Bété qui les a parcourus pour vous. Vous le retrouverez dans sa revue des titres. Et puis dans l'invité de la rédaction, le président de la FIDOP, la Fondation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie pacifique, estime qu'il y a anguille sous roche malgré le communiqué conjoint du ministère de l'Intérieur et celui des Finances affirmant apporter des clarifications suite au récent rapport de la Cour des comptes. Il sera en fin de journal avec Francis Cassis. Présentation de vœux de nouvel an au président de la République. Le nonce apostolique doyen du corps diplomatique a procédé par une image de rencontre de football pour attirer l'attention du chef de l'État sur la corruption qu'il faut combattre. C'était hier lundi au palais de la présidence. Écoutons Monseigneur Mauricio Rodabels.
La stratégie de jeu adoptée avec le plan national de développement a procuré un bon score grâce à un climat des affaires améliorées et une hausse des investissements. Ce qui conforte la Côte d'Ivoire dans son challenge à l'horizon 2030 à s'hisser au rang de pays à revenus intermédiaires de tranche supérieure pour vaincre la pauvreté. Toutefois, lorsque la beauté de Dieu est menacée par des actes anti-Dieu, il faut crier à haut en brandissant les cartons rouges. Les cartons rouges de la transparence, c'est contre la corruption pour rendre les acteurs joués de cette sélection diaphane et libre. La mise en place d'une haute autorité en ce sens est de bon augure et nous vous félicitons. Cela évitera que les buts de la croissance puissent être invalidés par les hors-jours de la quête des bénéfices propres que détectera l'avare de l'intérêt commun. Excellence, votre agenda international vous a conduit durant l'année écoulée en divers pays pour des séjours fructueux garantissant à la Côte d'Ivoire une stabilité, car le progrès est synonyme de la paix.
C'était à l'instant le nonce apostolique doyen du corps diplomatique, Monseigneur Mauricio Rodabels. Et puis réagissant aux propos du nonce apostolique, le chef de l'État a rappelé les performances économiques et sécuritaires de la Côte d'Ivoire de ces 10 dernières années. Puis Alassane Ouattara a invité les ambassadeurs accrédités à accorder leur soutien à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville. Écoutons le président Alassane Ouattara.
L'actualité politique enregistre également la nomination d'un nouveau Premier ministre, M. Robert Mbembe-Gré, et la formation le 17 octobre 2023 d'un nouveau gouvernement qui a pour mission de poursuivre et de consolider les progrès économiques enregistrés par la Côte d'Ivoire au cours de la décennie écoulée, notamment en matière de paix, de sécurité et de croissance économique. En ce qui concerne le volet sécuritaire, le renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité aux frontières nord du pays, ainsi que la mise en place de projets de développement en faveur des jeunes de cette région, ont contribué à réduire de façon significative les risques d'attaques terroristes. Parallèlement, le gouvernement poursuit avec détermination la lutte contre le terrorisme, la piraterie maritime, le trafic de drogue et l'orpaillage illégal. 80% des sites d'orpaillage illégal répertoriés ont été déguerpés. Dans ce cadre, j'encourage vos gouvernements respectifs à continuer d'apporter leur soutien à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville, qui a une vocation sous-régionale et qui est appelée à devenir un pôle d'expertise et de compétences régionales dans ce domaine.
Vous venez d'écouter le président Alassane Ouattara. Autre sujet à présent, celui du financement des partis politiques et justificatif de l'utilisation des fonds. L'ONG Civis Côte d'Ivoire s'élève contre la non-mise à disposition des différents rapports de l'utilisation de ces fonds, ce qui va à l'encontre de la loi selon le président de l'ONG. Et cette ONG d'éducation à la citoyenneté appelle donc à une mobilisation. Les détails avec son président, Dr Civis Kwame.
Nous avons constaté de 2020 à aujourd'hui que l'ensemble des partis politiques de Côte d'Ivoire ont reçu pas moins de 13 milliards de francs CFA. Malheureusement, en face, la loi leur fait obligation de faire un rapport au même titre que tous les ministères et de rendre ce rapport au plus tard le mois de mars de l'année N plus 1. 2020, 2021, 2022, aucun parti politique n'a rendu son rapport et l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de l'Intérieur, continue de les financer. 2016, 2017, 2018, 2019, la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance qui a été mise en place en 2015 a fait un communiqué conjoint avec la Cour des comptes pour demander à ce que les partis et groupements politiques fassent un rapport de l'utilisation de l'argent public et ne se sont pas exécutés. Donc, nous faisons le constat, nous appelons à une mobilisation publique pour qu'on sache pourquoi les partis ne font pas ce rapport alors que la loi les y oblige.
Dr Christophe Kwame, président de Civis Côte d'Ivoire, une ONG d'éducation à la citoyenneté. Prévu initialement pour le lundi 8 janvier, le déguerpissement de Boribana, quartier précaire de la commune d'Atékoubé, a été suspendu. C'est ce que nous apprend le secrétaire général du collectif des populations de la dite localité, Koulibaly Youssouf, est joint par Francis Cassi.
Il était annoncé que c'est lundi 8 janvier, notre quartier Boribana devait être déguerpi. Sauf que dimanche 7, aux environs de 20h, nous avons reçu un coup de fil des autorités policières de la commune d'Atékoubé, précisément le 10e arrondissement, pour nous informer que l'opération de déguerpissement annoncée a été reportée à une date ultérieure. Voilà en ces termes que le commissaire de police nous a informé. Nous avons remercié les autorités pour avoir reporté l'opération et nous avons demandé au gouverneur de bien vouloir nous recevoir pour que nous puissions lui expliquer réellement ce qui se passe au niveau de Boribana. Il y a le processus d'indemnisation par rapport au pont qui concerne les populations qui étaient simplement, uniquement dans l'emprise du pont. Et le reste de Boribana est dans un autre projet dénommé projet de valorisation des quartiers précaires d'Abidjan qui concerne 7 quartiers précaires de la ville d'Abidjan. Mais la phase pilote devait commencer par Boribana.
Parlant du projet de valorisation des quartiers précaires, ça signifie quoi?
C'est-à-dire chercher à indemniser les populations, les recaser sur un autre site et valoriser le nouveau site dans un partenariat public-privé. C'est-à-dire, ce sont des opérateurs privés qui allaient venir acheter les terrains de Boribana et puis faire de Boribana une ville du futur.
À l'instant, le secrétaire général du collectif des populations du quartier de Boribana à Atékoubé. L'organisation de la CAN à Korogo se présente comme une opportunité pour faire la promotion de la culture Sénoufo. À cet effet, la mairie et le conseil régional ont pris des dispositions pour mettre en valeur cette culture. En quoi consistent ces mesures? La réponse de Fidèle Sarasoro, président du conseil régional du Poro, dans des propos recueillis par notre correspondant sur place, Marcel Bonny.
Au-delà de l'accueil, nous voulons également que cette CAN soit une opportunité pour que les délégations étrangères puissent faire du tourisme. Sortir un peu de Korogo également, aller dans les autres localités, découvrir les sites touristiques. Mais enfin, nous voulons que cette CAN soit une opportunité de retombée économique pour Korogo et pour le Poro en général. C'est pour cela que nous allons organiser le 20 janvier ici, Korogo, un forum économique avec le CPC, avec la Chambre de commerce et d'industrie et avec l'ambassade de Côte d'Ivoire en Afrique du Sud. Nous allons mettre les hommes d'affaires de l'Afrique du Sud, la Namibie, en contact avec les hommes d'affaires de la région pour qu'on puisse leur présenter les opportunités d'affaires qu'il y a ici. Enfin, nous allons faire en sorte que les artisans, les musiciens, les restaurateurs, les hôtels puissent véritablement bénéficier de cette CAN et que ce soit effectivement une CAN qui a des retombées économiques pour notre économie au niveau local.
Vous écoutiez le président du conseil régional de Korogo, Fidèle Sarasoro. Dans l'actualité internationale, la première ministre française Elisabeth Borne a présenté lundi la démission de son gouvernement au président Emmanuel Macron qui devrait, selon des sources proches de l'exécutif, nommer à sa place le jeune et populaire ministre de l'Éducation, Gabriel Attal. Le nom du successeur de Madame Borne ne sera toutefois annoncé que ce mardi matin. Le chef de l'État l'a donc remercié sur le réseau social X, anciennement Twitter, pour son travail exemplaire au service de la nation. Rappelons qu'Elisabeth Borne, âgée de 62 ans, est la deuxième femme à occuper ce poste dans l'histoire de la France. Et puis de retour dans le studio de Radio de la Paix, ici à Abidjan, retrouvons Jean-Mélène Bitti pour sa revue des titres. Bonjour Jean-Mélène.
Bonjour Linda, bonjour à tous. La présentation de vœux de nouvel an au chef de l'État, le rapport de la Cour des comptes, le recrutement au PDCI-RDA et la CAN 2023 font l'actualité en Côte d'Ivoire. La présentation de vœux au président de la République est en bonne place de la revue des titres de ce jour. À ce propos, Fraternité Matin annonce vœux de nouvel an, terrorisme, climat, économie, l'appel du président de la République aux bailleurs de fonds. Sur le même sujet, le patriote encense le président de la République en titrant « Ado, champion du social ». À la une de l'Essor, on peut lire « Présentation de vœux face au corps diplomatique ». Ouattara appelle les opérateurs économiques à saisir les opportunités du PND. À l'Inter de faire savoir, Ouattara vante les progrès de la Côte d'Ivoire face aux diplomates en matière politique, sécuritaire et économique. À cette même cérémonie de présentation de vœux, le président de la République, dans les colonnes du matin, annonce que le dialogue est le maître mot de son action. Contrairement aux autres, le nouveau réveil a dans sa parution du jour, titre « Cérémonie d'échange de vœux au palais hier, la réalité ivoirienne maquillée devant le corps diplomatique. Corruption, justice, liberté, ce que le nonce apostolique demande à Ouattara, écrit Génération Nouvelle de son côté. Notre voix lui revient sur le dialogue de sourds au palais de la présidence lors de la présentation de vœux de nouvel an du corps diplomatique au président de la République. Les journaux sont aussi revenus sur le rapport de la Cour des comptes sur ce sujet. La voix originale fait savoir qu'après le rapport de la Cour des comptes, Ouattara nargue les Ivoiriens. Dans la même veine, le quotidien d'Abidjan met en manchette « Rapport de la Cour des comptes, trop de scandales sous le régime RHDP ». J'ai l'impression que c'est maintenant que certains découvrent la Cour des comptes, a fait savoir le président Ouattara dans le Jour Plus. Au matin de dire, Ouattara félicite la Cour des comptes. On referme ce chapitre avec le rassemblement qui barre à sa une. Affaire scandale, y a-t-il eu malversation? Ouattara félicite la Cour des comptes. Le vaste recrutement de nouveaux militants lancé par le PDCI est aussi repris par certains journaux de ce jour. Lancement de l'opération d'adhésion, le PDCI-RDA accueille ses nouveaux militants, nous annonce le nouveau réveil. Semaine du militant, les populations répondent massivement à l'appel du PDCI, nous dit le Bélier. Reformant cette revue des titres avec la CAN 2023 qui s'ouvre dans 4 jours en Côte d'Ivoire. Et sur ce sujet, à la une du journal gouvernemental Fraternité Matin, on peut lire Alassane Ouattara à l'équipe nationale, il n'y a jamais 203. CAN 2023, victoire des éléphants, Alassane Ouattara confiant, on peut apercevoir à la une de l'expression. La voix originale lui donne l'équipe type de Gassé pour la CAN 2023. L'avenir, quant à lui, revient sur le programme complet de la CAN. Le journal Super Sport met à sa une éléphant, une semaine décisive avant le grand saut. On referme ce chapitre avec Fraternité Matin qui annonce que la Tanzanie a rejoint sa base à San Pedro après les Marocains. Voici l'essentiel des titres de vos journaux de ce jour. Merci à vos bacs à journaux et bonne lecture.
Merci également à vous, Jean-Mélène Buitty, pour cette revue des titres dans l'édition de 8h. Vous serez de retour pour le même exercice. L'invité de la rédaction à présent et ce jour, il s'agit du président de la FIDOP, la Fondation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie pacifique. Pour lui, pour le président, il est Anguille Souroche, malgré le communiqué conjoint du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, celui des Finances et du Budget, affirmant apporter des clarifications suite au récent rapport de la Cour des comptes, car, soutient-il, la Cour a agi en connaissance de cause. Docteur Gervais Bogasako répond aux questions de Francis Cassi.
Docteur Gervais Bogasako, bonjour.
Oui, bonjour, cher ami de la Radio de la Paix.
Pourquoi avez-vous fait une déclaration sur le récent rapport de la Cour des comptes disant que pour l'exercice 2022, des ressources publiques liées aux frais des passeports et cartes nationales d'identité n'auraient pas été reversées dans les caisses de l'État? Pourquoi une déclaration?
Oui, la déclaration s'imposait à une structure comme la nôtre, la Fondation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie pacifique, pour la simple et bonne raison que les droits de l'homme riment avec l'état de droit, lequel état de droit implique nécessairement la bonne gouvernance. Or, ce qui a été révélé par le rapport de la Cour des comptes, c'est que simplement, il y a une certaine malgouvernance, des traces invisibles, j'allais dire non retrouvables, des sous pour les passeports, les cartes nationales d'identité. Donc, pour une structure des droits de l'homme qui surveille à la fois la démocratie, l'état de droit, le respect de la bonne gouvernance, il était nécessaire de nous appuyer sur ce rapport-là, d'abord le lire, nous l'approprier et demander des comptes à l'État, parce que c'est lui, l'État, qui est destinataire de ce rapport, notamment le président de la République.
Alors, mais les ministères concernés, depuis le 4 janvier, ont tenu à faire un communiqué pour apporter des précisions. Est-ce que vous avez une idée de ce communiqué?
Oui, on a vu le communiqué des membres du gouvernement, mais qui vient après coup. Parce que vous savez, quand une institution comme la Cour des comptes fait un rapport, elle contacte nécessairement les services de l'État. Et parfois même, les réponses de l'État sont contenues dans le rapport. Donc si le gouvernement fait maintenant des mises au point ou bien donne des précisions après coup, cela veut dire qu'au moment de l'élaboration du rapport, il y a eu quelque part un dysfonctionnement. L'État n'a pas donné certainement des réponses fiables. Et puis le tout, c'est quand même grossier que de ne pas trouver des traces de telle somme d'argent, d'une telle rubrique, parce que quand même la carte nationale d'identité, c'est tous les Ivoiriens qui sont concernés, le passeport, un certain nombre de personnes. Donc les informations que nous donne le gouvernement, pour nous, ne satisfont pas les populations, parce que dans tous les cas, on ne nous dit pas où se trouve la totalité de l'argent. Est-ce que ce sont les concessionnaires, notamment Sénédaï pour ce qui est des passeports et Odessi pour ce qui est des cadres nationaux défaillants, ou alors c'est au niveau du gouvernement même que le dysfonctionnement a existé? En tout état de cause, nous constatons là une malgouvernance.
Mais je vais vous lire un extrait de ce rapport. Alors il est dit, dans le cadre de la mise en œuvre de la convention passeport, un compte dédié a été ouvert dans une banque. Ce compte est régulièrement alimenté pour le recouvrement de la part fiscale revenant à l'État. Voilà comment le communiqué des ministères là se défend.
Oui, maintenant que le ministère se défend comme cela, bon, qui cherchons-nous à convaincre? Les Ivoiriens ou la Cour des comptes? Si la Cour des comptes avait une telle information, pourquoi n'a-t-elle pas figuré dans le rapport? Parce que finalement, ce ne sont pas les Ivoiriens qui accusent l'État, c'est la Cour des comptes qui nous informe de ce que elle, ayant fait l'audit, ayant fait le contrôle, il manque. Donc ce qui vient après coup, cher ami, notons que c'est une malgouvernance, c'est une défaillance. Quand on nous dit qu'au niveau du passeport, le concessionnaire a une part, l'État de Côte d'Ivoire a une part, et quand on regarde dans le rapport, les parts sont égales, 50%, 50%. Mais comment voulez-vous que l'État puisse partager des parts à part égale avec un concessionnaire?
Alors, docteur Bougaud, pourquoi êtes-vous si péremptoire à dire que c'est une malgouvernance, une mauvaise gouvernance?
Mais dès l'instant où une institution de la République le dit, qu'elle n'a pas vu trace dans les livres comptables de l'État, vous voulez qu'on note ça comment? Et puis après, vous allez venir vous justifier. Mais regardez dans l'opinion nationale, regardez, écoutez les Ivoiriens.
Donc vous voulez dire qu'après le communiqué des différents ministères, la Cour des comptes devait aussi réagi pour clarifier tout?
Oui, peut-être par parallélisme des formes, puisque c'est la Cour des comptes qui a révélé cette défaillance, peut-être faudrait-il que ce soit la Cour des comptes qui vienne nous certifier que la défaillance qui avait été notée a été réparée. Parce que c'est comme si quelque part, on nous a prélevé de l'argent et on ne sait pas ce qu'on a fait de notre argent. On est en droit de le penser.
Alors, des voix pourraient simplement dire, mais il y a eu tant d'affaires depuis que la Côte d'Ivoire existe comme nation indépendante, mais pourquoi celle-ci fait tant de bruit?
Parce que lorsqu'on écoute nos gouvernants, c'est que tout va bien dans la République. Quand on écoute le président de la République dans sa dernière adresse à l'occasion des vœux du Nouvel An, tout va bien dans la République. Mais quand une institution de la même sort un tel rapport, ça a beaucoup de prix. Hier, on a parlé d'un dossier concernant le fer, le fonds d'entretien routier. Plein de milliards volatilisés, mais rien n'a été. Mais aujourd'hui, c'est encore beaucoup plus sérieux parce que c'est une institution de la République qui a sorti ce rapport-là.
Quelque part, vous avez dit que cette affaire devait suivre le cours, sinon le processus qu'a eu celle du stade de Bimpe, Alassane Ouattara.
Oui, parce qu'au niveau du scandale du stade de Bimpe, parce que c'était un match amical international. Donc, tous les regards étaient sur nous et du coup, le chef de l'État a eu une bonne réaction. Et dans le fond, on a vu qu'il y avait des détournements et tout cela. Donc, pour nous, le chef d'État devait faire pareil. Aller au fond, savoir qui a fait quoi, et puis prendre les mesures qui s'imposent. Sauf d'autant plus que aujourd'hui, l'État demande encore aux Ivoiriens de faire des sacrifices. L'électricité va augmenter. Si l'électricité augmente, ça veut dire que quelque part, des sacrifices doivent être encore faits par le peuple. Lorsque le peuple fait des sacrifices, il aimerait voir que les sacrifices qui sont faits servent à quelque chose. Mais c'est vrai que je parle de mal-gouvernance, mais quelque part aussi, la réaction de la Cour des comptes m'oblige à reconnaître que c'est une sorte de bonne gouvernance aussi, en ce sens que c'est une institution de la République qui a fait son travail.
Docteur Gervais Bougasako, je vous remercie.
C'est moi.
L'invité de la rédaction ce jour, le président de la FIDOP, la Fondation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie pacifique, Gervais Bogasako, répondant aux questions de Francis Cassie. Un entretien qui met un terme à notre édition, dont voici le rappel des titres. Présentation de vœux de nouvel an au président de la République. Le nonce apostolique et doyen du corps diplomatique Mauricio Rueda a attiré l'attention du chef de l'État sur la corruption qu'il faut combattre dans le pays. C'était hier lundi au palais présidentiel. Et puis prévu initialement pour hier également lundi, le déguerpissement du quartier précaire Boribana de la commune d'Atékoubé a été suspendu dimanche soir, selon le secrétaire général du collectif des populations de cette localité. En France, la première ministre Elisabeth Borne a remis sa démission au président Macron hier soir, qu'il a accepté et remercié sur le réseau social X, anciennement Twitter. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'actualité, 8h.